Merci à l'équipe de louanges. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes très courageux. En tout cas, c'est vraiment une joie de pouvoir écouter ces chants. Et ce dernier chant, il est très spécial parce que finalement, il condense en lui tout le message de la foi, de notre espérance, et donc plus besoin de prédication. Non, je ne voulais pas plomber cette ambiance, mais le monde est un peu assombri. Les Anglais sont très tristes ce matin. Mais non, j'ai dit, je ne parlais pas de rugby. Ils doivent se dire, mais c'est quoi, rugby? What is that? What is it? Nous l'avons inventé, le rugby. Enfin. Bon, j'arrête de me moquer des Anglais. Non, je trouve que l'ambiance est morose, on le dit tout le temps. Moi, j'arrive le lundi, je donne cours devant des étudiants, des jeunes, et je vois que qu'ils sont abasourdis par les mauvaises nouvelles qu'on leur a données pendant le week-end et toute la semaine. On nous assomme de mauvaises nouvelles tous les jours. On nous parle de guerre, de crise climatique, de maladies, de catastrophes naturelles, de crises économiques. Ils sont vraiment inquiets et nous avons vraiment le choix parmi tous les éléments anxiogènes dans notre monde. Et à écouter les médias, on penserait qu'on vit dans un monde qui sombre dans le chaos. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Souvent, je sors des faits réels pour aller contre ces idées reçues, comme quoi nous sommes en train de sombrer dans le chaos. C'est juste pour illustrer le fait que le monde ne va pas si mal que ça. Voilà le type de graphique que j'ai trouvé et que je voulais partager avec vous. Je sais, ça fait un peu prof un dimanche matin, mais celui de en haut à gauche, cette courbe qui descend, c'est le taux de pauvreté dans le monde. Donc, on nous dit qu'il y a de plus en plus de pauvres, tout ça, mais le taux de pauvreté est en train de chuter depuis les années 80. En bas à gauche, cette courbe qui monte, là, il y a plusieurs pays, il y a la France en bleu clair, c'est le taux d'alphabétisation qui était presque nul au 15e siècle, et aujourd'hui on est à presque 100%. Et puis en bas à droite, on nous parle de guerre et tout ça, c'est le nombre de décès dans des conflits armés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et si on regarde les décès qu'il y a eu pendant le Moyen-Âge, pendant d'autres périodes encore plus troubles de notre humanité, on voit que vraiment, on a beaucoup, beaucoup progressé. Mais malheureusement, on ne nous parle pas de ça à la télé tous les jours. On nous dit que chaque fois, ça va de plus en plus mal, dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et donc, les jeunes sont en train de chercher des réponses, des outils pour faire face à un contexte qui est de plus en plus anxiogène. Les moins jeunes aussi. Et peut-être on n'en est pas conscient, mais le nombre de personnes qui se tournent vers la foi augmente de manière exponentielle. À l'époque de Jésus, la Bible nous dit qu'ils étaient 120 disciples, parce que Jésus est mort. Aujourd'hui, nous sommes 2,3 milliards de personnes qui croyons en Jésus-Christ. Comment c'est possible qu'un si petit nombre de pécheurs, pauvres, mal instruits, ils aient réussi à répandre le message de l'Évangile jusqu'au point où un tiers de la population mondiale connaît Jésus aujourd'hui? On nous dit, ceux qui aiment les chiffres, les statistiques, qu'entre 1980 et aujourd'hui, il y a eu plus de convertis à la foi chrétienne que dans toute l'histoire de l'humanité avant 1980. Donc vous imaginez ce qui est en train de se passer. On nous dit non, le christianisme, c'est en train de disparaître, il y a de moins en moins de gens qui croient, et en réalité c'est tout le contraire. C'est un message qui est devenu, on dirait aujourd'hui, c'est devenu viral. Sur un réseau social comme TikTok, j'ai été étonné de voir ça, en 2019, le hashtag Jésus comptait 85 millions de visionnements. C'est pas mal. Ben aujourd'hui, 2023, 51 milliards de visionnements. Alors non, ce n'est pas vrai que les gens ne suivent pas Jésus. La parole de Dieu est en train d'apporter, est en train de transformer le monde, est en train d'apporter une vraie réponse face à notre environnement anxiogène. La Bible dit « n'ayez pas peur ». Combien de fois elle dit « n'ayez pas peur » ? On compte plus de 300 fois dans la Bible que c'est écrit « n'ayez pas peur ». C'est comme si Dieu voulait nous le rappeler avec insistance. Il a un « n'ayez pas peur » pour chaque jour de l'année pour nous. C'est comme s'il avait fait exprès. Mais malgré ça, la peur est le principal problème de l'être humain sur la terre. Les premiers mots du premier homme dans le livre de la Genèse, c'est « j'ai eu peur et je me suis caché ». C'est incroyable. Et nous ne sommes pas conscients de comment nous agissons comme Adam dans le jardin de l'Éden, juste avant d'être expulsé. Parce que tout ce que nous faisons, ou plein de choses que nous faisons tous les jours, sont guidées par la peur dans notre vie, en permanence. On nous a éduqués, peut-être comme ça. Lorsque nous nous préparons le matin, bon, ce matin, ça a été un peu long avec une fille adolescente, parce qu'elle réfléchit à qui je vais rencontrer, qu'est-ce que je vais faire, je dois m'habiller comme ça, j'ai peur qu'on me voie comme ça. Donc, il y a plein de choses qui guident notre décision. Je réfléchis tout le temps à comment je vais être perçu, à si ce que je vais dire va être bien accepté, à qu'est-ce qui peut se passer. Combien de fois dans la journée nous avons peur ? Combien de fois dans la journée nous avons des craintes ? Combien de fois je suis agité ou je perds le sommeil, je suis préoccupé ? Combien de fois je suis en colère ? La colère est en lien avec la peur, parce que la colère est souvent un sentiment qui apparaît lorsque quelqu'un met le doigt là où il y a des choses qui nous font peur. J'ai peur de ce que je ne peux pas contrôler. J'ai peur de ne pas être respecté, et donc je me mets en colère. J'ai peur de ne pas être compris, et donc je me mets en colère. J'ai peur de ne pas être accepté à ma juste valeur, dans mon travail, dans ma famille, d'être abandonné, de ne pas réussir, de me planter à la prédication, d'être démasqué. On a peur de... On se dit, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. J'ai peur qu'on se rende compte que je suis vraiment pas fait pour ça. Peur de la maladie, peur de la souffrance, de ne pas être à la hauteur, peur de vieillir aussi, peur pas seulement pour moi, mais pour mes enfants, pour mes parents. La bonne nouvelle est que Dieu, dans sa parole, nous apporte des moyens pour mettre fin à nos peurs, un chemin pour retrouver la paix intérieure. Je voulais partager avec vous quelques versets de l'Épître aux Romains qui nous rappelle ces vérités qui nous amènent vers la paix intérieure. Dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. » Et puis plus loin, dans les versets 15 à 17, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père !» Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, puisque ayant part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. Nous avons là une vérité fondamentale, et c'est que c'est la résurrection du Christ qui est à l'origine de cette vérité, c'est que nous sommes fils de Dieu. Et notre statut de fils fait que nous pouvons nous approcher de lui avec pleine confiance. Nous pouvons venir à lui en criant « Papa ». Abba, c'est ça, c'est papa. Dans mon enfance, j'étais assez impressionné à cause de la relation qu'avait mon père avec son père, avec mon grand-père. C'était une relation qui avait l'air très, très froide, mais très respectueuse. Il ne se voyait pas beaucoup alors qu'on habitait à quelques rues. Parfois, le week-end, on allait chez lui ou on l'invitait à manger chez nous. Et c'était un monsieur, mon grand-père, très élégant. Il a toujours été très élégant avec son chapeau. Il arrivait, il enlevait son chapeau. Il demandait poliment où est-ce qu'il pouvait poser son chapeau. Mon père et mon grand-père, ils se vouvoyaient. Ça faisait un peu... À l'époque, c'était un peu naturel, peut-être, dans d'autres générations, ici aussi, et dans d'autres générations, se vouvoyer avec ses parents. Et il se traitait de... Mon grand-père appelait mon père « monsieur ». Est-ce que vous voulez un peu plus de soupe ? Oui, monsieur, merci, monsieur. C'est très gentil, monsieur. Aujourd'hui, les relations père-fils sont totalement différentes. Heureusement, je pense que c'est... Très bien, mes filles me traitent avec beaucoup de familiarité, parfois un peu trop. Ça va peut-être être de l'autre côté. Wesh, le bail. Attends. Déjà, traduisons. Mais dans ce verset de Romains, on nous invite à traiter Dieu de Abba, de papa. Pas de venir avec solennité devant lui. Pas de venir avec lui, à lui avec discrétion ni avec peur sur la pointe des pieds pour ne pas le déranger, mais vraiment avec confiance et le traiter comme notre papa. Et cela est possible parce que nous ne sommes pas simplement des adhérents à un club ou à une foi, nous ne sommes pas des followers sur les réseaux, nous ne sommes pas seulement des amis, nous sommes plus que ça, nous sommes vraiment leurs enfants. Toutes les peurs, je pense qu'elles ont une racine profonde dans l'ignorance. Souvent, nous sommes assujettis à la peur parce que nous oublions qui nous sommes devant Dieu, qui nous sommes pour Dieu. Jésus disait « Tu connaîtras la vérité, la liberté te rendra libre. » Et je pense que c'est que la liberté est dans le fait de reconnaître la manière dont Dieu nous regarde, la manière dont Dieu nous voit. Je vous propose d'explorer quatre choses qui peuvent nous permettre de remplacer la peur par la paix, la paix et la joie d'être les enfants de Dieu. Alors, l'idée, c'est de remplacer le mot peur par quatre mots qui forment l'acronyme peur. D'abord, on va remplacer le paix de la peur par le paix de preuve. Vous savez, après la mort de Jésus, les disciples n'étaient pas tristes. Ils étaient dévastés. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient vraiment terrorisés. Ils se sont enfermés chez eux. Et lorsque les femmes sont venues, c'est les femmes qui sont venus leur annoncer ce qu'ils avaient vu dans le tombeau vide et l'ange qui leur avait parlé. Ils ne sont pas allés sauter de joie. « Ouais, c'est très bien. » Non, ils les ont pas cru. Ils ont dit « Vous êtes folles. » Je ne sais pas s'ils les ont traités de folles. Mais en tout cas, ils ont dit « Ils sont en train de délirer. » Et on accuse souvent Thomas parce qu'il voulait toucher pour croire, mais les autres aussi, ils ne voulaient pas croire tant qu'ils n'avaient pas vu. Alors, ils en ont eu pour leur compte, parce que finalement, ce qui a vraiment changé l'attitude de ces disciples, c'est qu'ils ont vu Jésus. Jésus est apparu pas une seule fois. Il est apparu plein de fois. Il est apparu parmi eux. Il est apparu... Parfois, il y avait 500 personnes simultanément lorsqu'ils l'ont vu. Donc, ils ont été témoins oculaires et c'est ça ce qui leur a permis de vaincre la peur. Aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas Nous ne sommes pas des témoins oculaires du Christ. Mais la plus grande preuve que nous avons, c'est notre relation de communion avec lui. C'est le fait de voir des vies transformées par le Christ qui est la plus grande preuve. Il peut y avoir plein de choses qui apparaissent devant nos yeux, mais voir quelqu'un qui est transformé vraiment par Jésus, ça c'est quelque chose de vraiment miraculeux. Jésus est apparu parmi les disciples qui étaient terrorisés. La première chose qu'il leur a dit, c'est « la paix soit avec vous ». Jésus est venu pour nous apporter cette paix qui surpasse tout entendement. Il vient encore aujourd'hui transformer nos vies et remplir nos cœurs de cette paix. Dans la deuxième lettre de Pierre, c'est écrit « En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens des plus hauts prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. » Nous, ici, nous les croyants, nous sommes la plus grande preuve de l'amour de Dieu. La résurrection n'est pas seulement un fait avéré du passé, mais c'est quelque chose qui continue à œuvrer avec puissance dans nos vies aujourd'hui. Si on nous montre des guérisons, si on nous montre des personnes qui marchent sur l'eau, des montagnes qui se déplacent, moi, sincèrement, je serais un peu sceptique parce qu'avec... Avec l'informatique, on peut tout faire, on peut créer des mondes imaginaires, on peut être trompé par des images, par des sons. Il y a des intelligences artificielles qui sont capables de se faire passer par des humains, par nous-mêmes, qui peuvent imiter notre voix. Donc, le fait de se fier à des images et des sons, c'est quelque chose de plus en plus difficile. Mais ce qui ne peut jamais être simulé, je pense que ça ne pourra jamais l'être, c'est la transformation des cœurs des hommes. Et ça, seulement l'Esprit de Dieu peut le faire. Je vous propose, pour continuer notre anagramme sur la peur, le deuxième mot, c'est l'Esprit, et l'Esprit de Dieu. Je vous propose ces deux textes qui sont aussi très connus, dans Romains 8. « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça, c'est le verset qu'on avait vu avant. Et dans la seconde épître à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » L'Esprit de Dieu, c'est ce souffle qui anime les vies. Certes, la vérité de la résurrection est venue apporter la paix aux disciples, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les a mis en marche, celui qui les a équipés, celui qui les a transformés. C'est le Consolateur, celui qui est resté pour nous animer, pour nous aider et pour agir dans nos vies. Alors, il y a les preuves, il y a l'Esprit qui nous démontre, qui nous montre et qui nous anime. Mais il n'y a pas que ces deux choses-là. J'ai été intéressé à une période de ma vie par les polars, et plus que par les polars, par les romans à mystère. Je me souviens que Yann m'avait corrigé une fois. C'était quelqu'un d'autre. Dans ces romans, il y a toujours une trame dans laquelle on cherche des indices. Et puis, on ramasse des preuves, il y a une hypothèse qui se forme sur ce qui s'est passé, ça fait fausse route, et après, à la fin, on découvre quelque chose une découverte fondamentale qui fait pencher les choses, qui fait que tout bascule, et on découvre à la fin la vérité des faits. Mais à la fin, je ne sais pas, par exemple, dans les films de James Bond, quand on trouve le méchant découvre qui était le responsable de tout ça, il y a quand même le discours qui explique pourquoi il a fait tout ça. Et je pense que ce qui manque toujours dans ce mystère et qui doit être absolument présent à la fin, c'est la question de la motivation. Et dans la parole de Dieu, on nous explique très bien pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Dans Romains, chapitre 5, versets 5 à 8, et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies. Des impies, c'est nous. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme de bien accepterait-on mourir, et encore. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ n'est pas mort pour nous une fois que nous avons accepté de le suivre. Christ est mort pour nous alors qu'on ne croyait pas en lui, alors qu'on l'avait rejeté, alors qu'on était encore pécheurs. Oui, nous avons la preuve, nous avons l'esprit, mais en plus, on a l'explication de pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait. Ce n'est pas le fait que Dieu agisse par amour, qu'il produise des actes d'amour, c'est que Dieu est amour. Dieu cherche, depuis la création, à ce que nous soyons unis avec lui par amour. La clé du mystère du plan de Dieu est l'amour de Dieu, l'union éternelle avec lui, avec notre Créateur, c'est la seule motivation. Et toute la parole de Dieu parle de l'amour de Dieu, cet amour qui n'attend qu'à être révélé à nous dans notre relation avec lui. Donc, la dernière lettre de l'anagramme est apportée par le mot révélation. Mais ça pourrait être aussi le mot relation, cette relation qui révèle tout l'amour de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, il nous est dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Le R final, ça pourrait être aussi le mot résurrection. Nous allons fêter la résurrection dans quelques semaines. On est dans ce temps de carême qu'on ne fête pas forcément, mais nous sommes en train de nous préparer pour cette grande fête de Pâques, parce que c'est elle, la résurrection, la preuve de l'amour de Dieu. Et c'est elle qui nous a fait renaître pour un héritage. Mais ce n'est pas n'importe quel héritage, c'est un héritage qui ne s'abîme pas, qui ne s'amenuise pas. Il ne va pas se dévaluer avec l'inflation. Quand on était jeune, il y a eu une mode dans toutes les maisons, on avait une boîte métallique et on nous proposait de mettre des photos, des textes pour ensuite l'enterrer dans le jardin et la ressortir quelques années après. Une capsule du temps. Et évidemment, on n'a pas fait. Moi, j'ai rien mis dans la boîte. Donc, mais des souvenirs que j'aurais aimé garder sont pourris dans des boîtes de carton. Et c'est difficile de retrouver ça quelques décennies plus tard. L'héritage dont nous parle la Bible est comme ça. Il est gardé dans une boîte qui ne peut pas être abîmée. À un endroit où il ne peut pas être abîmé, dans le ciel. Et il ne sera révélé qu'à la fin. Nous savons qu'elle existe, que cet héritage existe, mais nous ne pouvons pas le voir maintenant dans toute sa splendeur. Dans quelques années, les choses qui nous inquiètent aujourd'hui n'auront plus la même importance que nous leur accordons aujourd'hui. On aura oublié la pandémie. Déjà, on ne se souvient pas de certaines choses qui sont passées en début 2020. On aura oublié la guerre, on aura oublié la crise. On est très fort pour oublier. Je crois que c'est aussi une manière de se protéger, le fait d'oublier les mauvaises choses. Mais il y aura d'autres sources de problèmes. La Bible est très honnête par rapport à ça. Elle ne dit jamais que les problèmes vont disparaître. Ce qui change, c'est la manière dont nous affrontons ces problèmes. Et c'est pour ça que la Bible nous propose d'avancer vers Jésus, mais avec assurance. Je suis tombé récemment sur une vidéo sur Internet. Vous allez dire que je passe beaucoup de temps sur Internet, c'est vrai. À regarder des vidéos bêtes, c'est vrai. C'était une vidéo d'un enfant, deux ans, auquel il lui manquait une jambe. Donc on lui fabrique une prothèse et on lui met la prothèse. Et si vous faites ça avec un adulte, le temps entre le moment où l'adulte met la prothèse et le temps où il réapprend à marcher, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Déjà, il faut s'habituer, il faut que les connexions cérébrales se fassent, il faut reprendre l'équilibre. Ce qui était étonnant dans cette vidéo, c'est qu'on met la prothèse à l'enfant et l'enfant marche tout de suite. Comment ça se fait? Évidemment, les cerveaux des enfants sont pleins de connexions neuronales, ils sont très, très jeunes et l'apprentissage est très rapide. Mais il y a quand même dans ce geste de mettre la prothèse et marcher, il y a quelque chose qui dépasse la simple capacité physique, c'est le fait de ne pas avoir peur. On aurait tous peur de tomber et cet enfant n'avait pas peur de tomber. Vous avez vu comment les enfants apprennent à marcher, vous les mettez là, ils se mettent debout, vous sentez qu'ils cherchent encore l'équilibre, mais il y va quand même. Parce que justement, ils n'ont pas peur, parce que la cible, pour apprendre un enfant à marcher, il faut le mettre devant sa mère ou son père, et il vient vers son père. Parce que la cible, atteindre la cible est plus important que toutes les peurs. Et je pense que Dieu nous appelle à être comme ça, à être comme des enfants. Il nous a équipés, il nous a donné tout ce qu'il faut, et nous n'avons qu'à avancer vers lui. Donc c'était ça le message que je voulais vous laisser. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons décider d'aller en confiance vers lui et de surmonter nos peurs, non pas avec des conseils de supération personnelle, mais avec la parole de Dieu et ce que Dieu nous dit dans sa parole.